Bonjour et bienvenue sur Campus Max sur Radio Campus Po 98.8 sur vos radios. Nous nous retrouvons ce mardi 20 février avec moi-même Benoît pour faire ensemble un tour de l'actualité internationale et locale. Commençons tout d'abord par faire un tour de l'actualité internationale. Et vous, que feriez-vous si vous trouviez un portefeuille plein de billets ? José, lui, ne s'est pas posé la question. Cet Espagnol de 57 ans, citoyen d'Armacilla de Alba, a trouvé un portefeuille alors qu'il sortait d'un supermarché avec son épouse, dans lequel étaient soigneusement rangés 50 billets de 50, soit 850 euros. Et pourtant, José a foncé vers le commissariat le plus proche, situé à une cinquantaine de mètres de là, comme le raconte dans ses colonnes la Senadera. « Ma conscience vaut mieux que cet argent », il a soufflé à nos confrères, admettant que lui et sa femme ne roulent pourtant pas sur l'or, mais nous avons bien dormi. Pour la petite histoire, le propriétaire du portefeuille ne s'était même pas rendu compte de l'avoir perdu lorsque les policiers l'ont contacté. Et José confessait qu'il avait lui-même perdu ses papiers il y a quelques mois, mais cette fois, personne ne les a ramenés. La porte d'Ishtar, aujourd'hui conservée au musée de Bergame à Berlin, a fait l'objet d'une récente étude utilisant des techniques d'archéomagnétisme, ravivant ainsi le débat scientifique sur la datation des trois phases de construction différentes de la porte de Babylone aux portes d'Ishtar, identifiées lors des fouilles archéologiques précédentes. Le monument, dont la construction fut ordonnée par le roi Nabuchodonosor II, règne de 605 à 562 avant Jésus-Christ, en l'honneur de la déesse de l'amour et de la guerre Ishtar, est aujourd'hui conservée au musée de Pergame à Berlin et est célèbre pour ses briques en terre cuite émaillées de bleu et ses bas-reliefs. Une équipe internationale de chercheurs de l'Institut National de Géophysique et de Volcanologie du musée de Pergame à Berlin à des universités de San Diego et de Tel Aviv a analysé de très petits fragments, moins de 3 mm, provenant de 5 briques appartenant à 3 phases de construction différentes de la porte, pour tenter de comprendre s'il existe ou non une corrélation temporelle entre les différentes périodes de construction de la porte et le déroulement des guerres menées par le roi babylonien qui a vécu les Égyptiens lors de la bataille de Carchemis et a conquis la ville de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Les échantillons ont été analysés avec la technique de l'archéosténésie, c'est-à-dire l'analyse de la force du champ magnétisme terrestre resté imprimé dans les briques au moment de leur fabrication, explique Anita Di Chiara, chercheuse à l'INGV et co-auteur de l'article. Si les briques avaient été produites en même temps, elles auraient enregistré la même intensité du champ magnétique. Si, en revanche, les valeurs de la force du champ magnétique mesurées en laboratoire étaient différentes, cela signifierait qu'elles ont été fabriquées à des moments différents, ajoute-t-elle. La datation archéomagnétique en tant que technique d'étude présente généralement des incertitudes de plusieurs siècles car les variations du champ magnétique terrestre sont très lentes. Cependant, dans ce cas spécifique, il existe une anomalie du champ appelée anomalie de l'âge du fer qui a vu l'intensité du champ magnétique terrestre varier très rapidement en quelques siècles. Les analyses que nous avons effectuées au laboratoire de paléomagnétisme de l'Université de Santiago ont révélé que l'intensité enregistrée statistiquement indiscernable est probablement postérieure à la conquête de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, conclut Di Chiara. Bien que l'étude ne fournisse pas de réponse concluante quant à la séquentialité des événements, elle prouve cependant que même des petits échantillons de matériaux suffisent pour mener des études d'archéomagnétisme. Cette preuve ouvre la possibilité que dans le futur, des études de ce type puissent être étendues également au reste de l'ancienne Mésopotamie, une région riche en constructions millénaires qui pourrait nous offrir de nouveaux points de vue pour nos recherches scientifiques. Des skieurs belges ont profité des multiples pistes de ski italiennes durant leurs vacances, mais à leur retour, ceux-ci ont eu la surprise de recevoir une amende en raison de leur vitesse. Le belge Loeb Dubois, âgé de 31 ans, et ses copains ont décidé de se lancer sur une piste noire en Italie. Voyant que celle-ci est dépeuplée, le groupe décide alors d'accélérer. Une fois en bas, nous avons été interpellés par la police car nous avons visiblement skié trop vite, indique l'un d'eux. La communication entre les policiers et les skieurs s'est révélée complexe. Un des agents parlait un peu anglais. Et il a un peu traduit pour nous, mais il a traduit ce qu'il voulait bien, explique le Belge. Une fois les quelques documents signés, les skieurs ont tous pu récupérer leur passe et poursuivre leurs vacances. De retour en Belgique, Loeb Dubois raconte avoir reçu une lettre des services de police italiens où il était indiqué qu'il fallait régler une amende de 50 euros. L'ensemble du groupe a reçu la même chose, précise le média belge. Le trentenaire a décidé de contester cette dernière et a donc contacté le domaine de Vivigno. Ils m'ont informé qu'il y avait des limitations de vitesse, mais pas de règles officielles, a-t-il déploré de manière étonnée. Voici à présent ce qu'il se passe en France, ce qui est arrivé à cette famille de Jupille dans le sud de la Sarthe est loin d'être banal. Cécile Huppin et son compagnon Guillaume Pavé ont eu 3 enfants, Lucien 10 ans, Octave 7 ans, depuis peu, et la petite dernière Célestine née en septembre 2023. Les deux Benjamins étaient si pressés de rencontrer leurs parents qu'ils sont nés pour le premier dans la voiture et pour Célestine à la maison. Âgés de 32 et 36 ans respectivement, Cécile et Guillaume ne s'entendaient pas à vivre 2 accouchements pareils. Il n'y a eu aucune complication, que ce soit pour Octave ou pour Célestine. Quant à ma grossesse pour Lucien, pareil, je n'ai eu aucune explication, explique Cécile Huppin. Rien ne les présageait de vivre de tels accouchements par 2 fois. Cécile Huppin se souvient, pour ma première grossesse, j'avais perdu les os et j'avais été à la maternité. Après 7 heures de travail, Lucien était né. Ce fut loin d'être le cas pour les 2 suivantes. Je m'étais renseigné pour accoucher à domicile, mais les horaires des sages-femmes étaient trop élevés. Mais quand j'ai quand même eu mon accouchement chez moi et sans faire exprès, annonce fière la maman. Il y a 7 ans, le couple attend dans son 2e enfant. Octave est né le 5 février 2017 après un long parcours de 12 minutes. J'ai eu des contractions, mes parents n'habitaient pas très loin de chez nous. Nous avons déposé Lucien chez eux. On pensait arriver à temps, arrivé au radar juste avant Ecomoy. J'ai perdu les os. J'ai demandé à Guillaume de s'arrêter au rond-point avant le péage de la 28 parce que je sentais qu'il arrivait. Et c'est peu de le dire, le temps de Guillaume vienne aux côtés de sa femme, la tête était déjà sortie d'après le papa. Cécile poursuit, il n'y a eu aucune complication et heureusement, les pompiers sont arrivés tout de suite après. Ils nous ont dit qu'il avait très bien géré. Sur le certificat de naissance d'Octave, on retrouve donc son lieu de naissance, à savoir le Gruchet, près du péage LAS 28 à Ecomoy. Une première expérience unique pour le papa et la maman qui se termine très bien. Mais pas si unique que ça, puisque finalement, 7 ans plus tard, le couple Huppin-Pavé remet le couvert. En 2023, Cécile et Guillaume attendent un 3e heureux événement. La petite Célestine doit pointer le bout de son nez en octobre. Le 23 septembre au soir, le couple et ses enfants se rendent à un repas de famille. Il décide donc de coucher les 2 plus grands, appelle la famille pour les gérer et commence à mettre les affaires dans leur voiture. Lorsque Cécile agrippe le canapé et ne peut plus bouger, Guillaume m'a dit qu'on avait le temps d'aller à la maternité. Je lui ai répondu que ce n'était pas au rond-point de l'autoroute que j'allais accoucher, mais plus près que la maison, au rond-point de Saint-Hubert. Comme pour son grand frère, la petite Célestine ne se fait pas attendre et décide de naître chez elle. Guillaume poursuit, on appelle le SAMU à 9h. Cécile était couchée sur le canapé, incapable de bouger et le travail commençait. Guidé par les pompiers au téléphone, il commence à s'occuper de sa femme. Les couvertures s'empilent autour de Cécile, mais les 3 hommes de la famille n'ont pas le temps de tout préparer. Célestine est déjà là, en 2-3 poussées. « J'avais ma fille dans mes bras », dit-elle. Si accoucher chez soi reste une expérience hors norme, le couple en garde un bon souvenir. Je le souhaite vraiment à tous les parents. C'est vraiment unique, ça te coche-t-il? C'est la fin de ce Grand Max, j'espère qu'il vous aura plu et que vous avez passé un agréable moment. Nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez réécouter le podcast ainsi que les précédents sur radiocampus.fr et vous pouvez suivre Radio Campus Po et Campus Mag sur Instagram. On vous y attend nombreux et nombreuses. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.